Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Et c'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla, Canot Boudadi, avec Laura Domange, Tanguy Bassureau, Daniel Morin.
Coucou Laura.
Et nos invités, Yvan Calderac et André Dussolier. Oui. Merci. Ravi de vous accueillir à nouveau, tous les deux, merci pour votre fidélité, parce que déjà venir dans cette émission, c'était un effort. Revenir, c'est de l'inconscience. Comment allez-vous André ?
Bien, content de vous voir.
Beaucoup plus, forme, beaucoup bronzé, plus calme que dans N'avoue Jamais. Et dans quel état êtes-vous, Yvan Calderac ? Parce que quand on est auteur, j'allais dire compositeur d'un film, on doit avoir une petite tension particulière à 48 heures de la sortie.
Et oui, forcément, il y a une petite angoisse et en même temps, on est heureux d'en parler, de venir faire la promo. Et
c'est fou qu'un film, en fait, en une journée, pratiquement, tout se joue alors que ça représente combien de temps de travail ?
Trois ans.
C'est ça qui est dingue, quoi. Mmh.
Ça se joue, maintenant, c'est le mois de mercredi, c'est le premier week-end. C'est vrai que ça donne déjà une tendance et après, il y a quand même le bouche à oreille qui s'installe.
Mais c'est vrai que c'est beaucoup de pression. Comme il faudrait que ça sorte toutes les semaines pendant six mois, par exemple. Pour étaler un peu. C'est un bon concept. Non.
Écoute, voilà, je propose.
C'est un dosage des pressions.
C'est ça, okay. Exactement. D'autant qu'il y a des vacances scolaires aussi qui démarrent pour certaines zones en ce moment. Donc c'est toujours agréable d'aller évidemment au cinéma, qu'on soit en vacances ou pas. On va en parler évidemment de ce film, N'avoue Jamais. Mais d'abord, musique. Il y a beaucoup de musique.
Musique.
Reconnaissez.
Tanguy. C'est Flashdance.
Oui.
What a feeling.
Irène Cara. Non.
Qu'est-ce que j'ai dansé là-dessus?
Tes cheveux aussi.
Ah ouais, je les ai tous perdus là.
Daniel.
Toto Coutinho.
Toto Coutinho.
Yvan l'a dit aussi. Toto Coutinho. Je donne un point à Yvan et un point à Daniel.
D'accord. Okay.
Wow. Ouais, je sais pas, je suis bonne humeur.
Ça arrive.
Ça sent la rentrée, ça dure 12 heures.
Hein. C'est lundi.
Mais là, je trouve pas le thème, là.
T'as pas le thème ?
Non.
Attends, avec ça ?
Tanguy. Billie Jean.
Oui.
Jackson, quand même. Mais on a toujours pas le thème.
Okay.
C'est les petits cris ?
Non. Ah bon. Flashdance, l'italiano Billie Jean, c'était en 83.
Ah, oh là là.
Qui est une date très importante dans le film, N'avoue Jamais, dont on va parler dans quelques instants.
Il y a prescription.
Tanguy, every breath you take, police.
Et on va dire une chose, elle était pas moche cette année-là en musique, hein, quand même.
Il y a quand même de la merde. Hein.
Police, Michael Jackson.
C'est gratuit, mais regardez pas comme ça.
Et ça ?
Tanguy. Daniel.
Non, t'as dit Lionel Richie.
Non, c'est moi qui l'ai dit.
Et les Commodores, mais il n'était plus dans les Commodores à ce moment-là.
Ah bon, d'accord, je sais. Donc j'ai
il avait été viré des Commodores.
Bien joué. Quelle année, 83 ? Et là,
Daniel.
Let's dance,
David Bowie.
Ouais. Moi, j'ai perdu l'habitude de jouer là, tu vois.
Oui.
Je suis un peu spectatrice et tout, je suis bien.
Bien là. T'es bien spectatrice.
Il y avait pas un Dalida en 83 ?
83, Let's Dance, ouais.
Il y avait un Dalida. Dalida ?
Non, Dalida, elle était.
Elle était morte.
Non, elle était pas morte.
Si, elle était morte.
87.
Non.
Ouais, elle était
genre, t'as la date de la mort d'Dalida.
Elle est morte en décembre 81. Non. Si.
Attention, tout se joue là-dessus. Pour l'instant, Tanguy est en tête.
Laura. Africa, mais comment elle
s'appelle ?
Rose Laurence.
Ah, pardon.
Non, c'est Laura. C'est Laura.
Vas-y, laisse-la gagner.
Roselance.
Laisse-la gagner.
Oui, aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Africa, oui.
C'est super bon goût, là.
Oui.
C'est bon, j'étais parti sur Asia.
Je crois que c'était là.
C'est Rose Laurence.
Oui.
Alors, dit par Laura, c'est Rose Lawrence.
Et qui est décédée il n'y a pas longtemps.
Ah,
parce qu'on fait le point des morts.
Ouais. Voilà, c'était pas le sujet de la
journée. Non, mais j'ai
c'est surtout la victoire de Laura. Mais pour ta dernière.
Licenciement, ça se fait maintenant.
C'est pas, alors, figure-toi que.
Les fins de saison,
oh là là. C'est sa dernière parce qu'elle a eu la gentillesse de nous offrir des biscuits.
Oui. Ouais. Et elle est virée pour ça.
Des sablés, exactement. Et il fallait pas.
Elle a voulu nous empoisonner.
Navou.
Des Space Cookies.
Exactement.
On prévient les auditeurs que ça doit être une émission particulière.
N'avoue jamais.
N'avoue jamais.
Guy Mardel, cette chanson, paradoxalement, arrive tard dans le film, mais révèle beaucoup de choses, Yvan Calvérac.
Oui, effectivement, on n'avoue jamais, parce que dans ce film, chaque personnage a un peu un secret. Et ça commence d'ailleurs par la découverte de l'être... si je peux le dire, hein, je peux en parler.
Le début, en tout cas, oui. On peut dire le début, pas la fin, ça serait quand même dommage.
Non,
si j'ai parlé de l'année 83, c'est parce que justement, André Dussoli, dans votre personnage, François, si j'ai bonne mémoire, découvre dans un grenier une espèce de...
Un paquet de lettres.
C'est le livre de la Pléiade qui sert de boîte à secret, dans lequel il y a ces fameux paquets de lettres qui n'existeront plus jamais, reliés par un ruban rouge, parce que vu l'état des correspondances aujourd'hui, malheureusement, ça...
Triste surprise,
voilà.
C'est vrai.
Alors et que là, il trouve que sa femme, alors qu'ils étaient déjà mariés, a eu une relation.
Oui. Et tout ça est parti d'un fait vrai, hein, dont Yvan s'est inspiré, puisque, raconte-le, c'est-à-dire que vraiment un homme de 92 ans, sicilien...
Absolument, a trouvé des lettres, ça c'est un fait divers, dans son grenier, en Sicile, qui datait de 60 ans, et il était depuis 70 ans avec sa femme, et le mec a demandé le divorce, c'est devenu le plus vieux.
Déjà, ce qui est très élégant pour un Sicilien qui normalement passe à la violence.
C'est élégant
qu'il ait voulu.
Ans, il n'avait plus les moyens d'être violent.
Il voulait qu'il y ait une procédure, c'est voilà.
Je pense qu'il y a des gens qui l'ont retenu. Hein.
Et il a demandé le divorce, il est devenu le plus vieux divorcé d'Italie. Et ça nous a amusés. Moi, je ne voulais pas du tout faire un film sur le divorce, hein, c'est plutôt un film sur la jalousie et la revanche, parce que là, il va chercher, il ne va pas se divorcer, il va chercher l'ancien amant.
Ouais, j'ai presque envie de dire, c'est un film aussi sur la prescription, la notion de prescription. Il y a des répliques qui sont extrêmement drôles dans le film, c'est-à-dire vous dites, quand elle vous dit, il y a prescription, vous lui répondez, il y a prescription quand on est malade, je ne suis pas malade.
Oui, et puis en plus, je viens de l'apprendre, donc c'est aujourd'hui, moi, que je dis.
Il a raison.
C'est drôle le concept, la prescription, quand même.
Non, mais c'est de dire...
Dans le sens ordonnance.
Oui, c'est ça, c'est le jeu de mots est là-dessus, mais c'est surtout sur la base de dire il n'y a pas de prescription possible. Et c'est ça, c'est très dans l'air du temps, sur des actes beaucoup plus violents et beaucoup plus marquants dans la tête. Sauf que là, en effet, vous avez le sentiment, en découvrant des lettres, découvrant l'adultère de Sabine Azéma, qui est votre épouse dans le film, Annie, vous découvrez qu'il va falloir... réagir comme le militaire que vous êtes aussi.
Exactement, et en plus ça concerne un ami qu'on avait, que joué
par Thierry Lhermitte, Boris. Voilà.
Jamais j'aurais pu imaginer que ces deux-là auraient eu une histoire et que je ne sois pas au courant.
Mais vous n'étiez jamais là, François.
Je sais.
Il n'y a pas de merci, il faut être présent.
Alors il est très militaire, on le voit d'ailleurs dès le début du générique avec les images d'Yvan Calvérac, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a à la fois des petits soldats de plomb et une notion très militaire et des portraits du général de Gaulle, et de l'autre côté la musique, une part artistique dans ce couple apportée. D'ailleurs, les opposés s'attirent parce que Sabine Azéma, elle joue du piano et elle est très artiste et très, on va dire quoi, légère dans sa manière d'être, alors que lui, il est beaucoup plus strict, beaucoup plus militaire. Et d'ailleurs, il va envisager son enquête d'une manière très militaire. Il veut aller lui mettre une claque.
Mais oui, parce qu'il n'aurait jamais...
Une pelle même.
Lui qui a affronté tous les ennemis possibles et imaginables, et il ne pouvait pas imaginer que c'était elle, son pire ennemi. Enfin, que vraiment, il allait devoir faire une bataille sans fin. Et alors que vraiment, il était sûr de cet amour, quoi. En plus, les enfants étaient là, tout était en ordre, tout était en place, bien sûr, comme les petits soldats de plomb dans son bureau.
Voilà.
Et puis bon, mais il faut quand même dire, quand même, qu'il ne va pas rester uniquement et rigide et militaire. Il va évoluer un peu, quand même.
Bon,
bah, il y a la génération suivante qui va...
Quel moment du film j'ai voulu, hein, parce que
il est un peu forcé de bouger un peu.
Il va être ému quand même un petit peu par ses fils, par ses enfants.
Voilà, il est rigide à tout point de vue. Il est rigide avec sa femme parce que d'un coup il dit tu m'as trompé. C'était en 83, nous étions mariés. Elle répond c'était il y a 40 ans. Il y a prescription. Non, il y a pas prescription. Ça m'est arrivé là maintenant. Donc c'est maintenant que je suis énervé et je vais lui mettre ma main dans la gueule.
Avec 40 ans de retard.
40 ans de retard. Et elle, elle dit d'ailleurs, mais il va rien comprendre, le pauvre.
Et bon, moi, je me comprends.
Voilà. Et, ouais. Et de...
Elle m'accompagne, parce que c'est pas ceux que je leur connaisse, en plus. Donc, c'est évidemment, ça. On fait ça à deux. Non, c'est quand même, c'est une aventure. C'est mon Indiana Jones, quoi.
Et son, et son rapport avec ses enfants est également très militaire, parce qu'il a ouais. trois enfants. Ouais. L'un qui est vraiment
la
l'aîné,
copie conforme,
l'enfant
ouais.
préféré, ouais. Entre guillemets, qui... Ouais.
Qui fait que des filles.
Qui fait que des filles, qui attend un nouveau bébé, peut-être ça sera un garçon, ouais. on ne sait pas, on va pas divulguer à la fin, joué par Gaël Giraudeau, ouais. exactement.
Qui est le frère de Sarah et le fils de Bernard Giraudeau.
En plus, voilà. mais c'est surtout un bon acteur.
C'est surtout oui. un super acteur, absolument.
Sans forcément avoir le pédigré qui va avec.
Non, non, bien sûr.
Vous avez raison, c'est bien
pour
de rappeler.
Pour ceux qui se posent la question.
Absolument. Et puis il y a Joséphine Demeau et Sébastien Chassagne, Sébastien Chassagne étant le fils de monsieur et madame Chassagne, je tiens à préciser aussi.
Et le frère de sa sœur.
Et le frère de sa sœur.
Très talentueux.
Et super actrice et acteur tous les ouais. trois. Et ils ont aussi chacun un tout petit peu leur secret, leur jardin ouais. secret. Sauf ouais. que l'un est militaire, les autres sont artistes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, il fait quoi, des marionnettes, je me souviens.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
ouais,
ça m'a pas tellement frappé.
Il le dit encore avec un peu de
mépris. Et je le méprise un peu, je voilà. considère un peu comme un jeu.
Voilà, un guignol.
Quelque chose qui,
un saltimbanque. Voilà.
Qui doit faire ça en famille ou avec des amis, mais pas de façon professionnelle. Donc, je n'ai pas.
Votre propre père préférait le gendarme dans le guignol.
Oui, c'est ça. Vous parlez du mien ou
oui.
parlez...
Non, dans le film. Dans le film, votre propre oui, père préférait le gendarme parce que guignol, c'est toujours un.
Guignol.
Voilà. Je vois que vous avez vu le film, c'est l'essentiel. Vous avez un copain au milieu de tout ça qui est interprété par Michel Boujna, qui est ce qui est,
ce qui est son avocat.
Ce qui est, ouais, mais ce qui est touchant, c'est que on retrouve des couples de cinéma. On retrouve évidemment le couple Sabine Azéma, André Dussolier. On retrouve le duo, c'est pas un couple, le duo Michel Boujna, André Dussolier, parce que je pense à Trois hommes et un couffin, oui. évidemment. Et donc, j'imagine que ça doit aussi, quand on est acteur et qu'on a beaucoup de partenaires et différents partenaires, ça doit être émouvant de retrouver.
C'est très émouvant. Mais, et rassurant parce que Michel Boujna ne devait pas chanter dans le film. C'était pas mal parce que
quand on sait comme il chante.
Quand on sait Trois hommes et un couffin, il a fallu faire ça pendant 3 jours au clair de la lune quand même. C'était celui qui chantait
pour
le plus
la berceuse.
Oui, mais j'étais toujours content de retrouver Michel, que je connais déjà bien avant de faire ce métier, et que je suis content de retrouver. Voilà, grâce à... Il est mon avocat cette fois, mais c'est toujours plaisant, et il y a toujours l'œil qui frise un peu.
Et
il
Sabine.
Se moque de moi.
Et Sabine, c'est
et Sabine,
un couple.
Et
vous
Sabine.
Faites un couple de cinéma
incroyable.
Grâce à la caméra d'Alain René, c'est incroyable.
Toujours des moments agréables et dans
combien de fois vous avez joué
ensemble ? Amours qu'on a connus et qu'on a partagés. Il faut qu'Yvan nous balance cette bombe là, épouvantable.
C'est la 12e fois qu'ils jouaient ensemble.
C'est la 12e fois que vous jouiez ensemble.
Ouais. Je crois, oui, pas mal. Ouais. Enfin, oui.
Et
ouais,
souvent, ouais. souvent amoureux, rarement futur divorcé.
Oui, rarement ouais. dans la bagarre, en tout ouais. cas là. Mais elle répond avec beaucoup de distance, de subtilité, comme je dirais d'ailleurs aussi.
Elle se laisse pas faire.
Et voilà, elle se laisse pas faire, mais c'est bien. C'est une opposition qu'on n'avait pas eu à jouer jusqu'à maintenant.
Exactement.
Donc c'était pas mal que Yvan nous l'offre.
C'est drôle, c'est original, c'est parti d'une histoire vraie comme vous l'avez entendu. Tout à l'heure, André Dussolier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte, Joséphine Demeau, qui elle aussi a son jardin secret, avec Eva Rami, que nous saluons au passage, brillante actrice également, Gaël Giraudeau, qui paraît-il est le frère de ça, Michel Boujna, qui est le frère de Paul, je tiens à le préciser,
oui,
Sébastien Chassagne, qui n'a rien à voir avec Christophe II, puisque c'est pas le même nom. Daniel Morin a visionné le film, c'est pas la peine d'insister là-dessus, non vraiment. Ok, d'accord, vite fait.
Il s'est auto-percuté.
Et Daniel a une vision.
Oui, souvent, ouais. Ah, cette vision, que oui mon Nagui, que oui mon Kiki. Alors, je l'ai eu, ma vision, une fois encore, je l'ai eu en me penchant sur l'actualité de nos invités du jour. Après avoir vu N'avoue jamais, ouais. comme tout le monde autour de la table, je me disais « Ah bah ça c'est clair, faut jamais avouer, jamais !» Et il y en a qui vont encore plus loin dans le concept. Laura Demange, ici présente, me disait ce matin qu'il y a 2 ans, son mari l'avait surprise au Plumard avec 2 amis légionnaires. Elle a nié. Elle a sorti la fameuse phrase « C'est parce que tu crois, on est tout nus peut-être, mais ça veut rien dire, le sol est jonché de préservatifs, ok, mais c'est pas à nous, c'est 2 mecs !» qui danse au pied du lit en string et en cagoule, je sais pas qui c'est. Cette vidéo qui passe avec André Dussolier en soutane de cuir qui court après une brebis tondue, je sais pas d'où ça sort. Non, Jean-Louis, je ne te trompe pas. Tout ça, c'était ma pensée à chaud.
Sais.
Mais en y réfléchissant, je me suis ravisé. Ne pas avouer quand l'évidence frappe à la porte du bon sens peut provoquer de légitimes colères. Non, mais il y a des traces de rouge à lèvres sur la langue et sur les fesses. Sur ton dos, il y a des traces de lacération. Sur le testicule gauche, il y a clairement une trace de morsure. Et il dit qu'il s'est fait ça en se cognant dans une porte. Il se fout de ma gueule. Il me trompe. Ça agace. La tromperie mal cachée, ça agace. La tromperie, comme tout autre mensonge d'ailleurs, eh ben c'est le moment, c'est à ce moment-là que j'ai eu la vision, ma vision pour un monde apaisé. Ma vision, c'est de ne jamais plus mentir, de tout avouer, de tout avouer, mais attention,
oui,
Artung baby, de tout avouer, mais avec diplomatie, sans s'énerver, de façon pédagogue, pour que l'autre sache et pour qu'il en tire aussi des leçons. La vérité fait progresser. Tenez, ici à Radio France, comme beaucoup d'entreprises, il y a tout le temps des réunions, tout le temps. Eh ben, en fin de réunion, comme celle qu'on a eue ce matin au bureau, qui n'a pas été d'un grand intérêt,
et là, avec un vote,
et on le fait savoir. Bon, fin de la réunion, quelqu'un veut rajouter quelque chose, hein? Oui, Daniel. Alors, le prenez pas mal, mais cette réunion, c'était vraiment de la merde. L'ordre du jour était bidon. Excusez-moi, mais convoquer tout le monde pour se poser la question, est-ce qu'il faut continuer d'inviter André Dussolier? Alors que ce dernier a déclaré dans le journal de Mickey, oui, je prends du crack, et alors? Désolé, mais la réponse est claire. Oui, il faut continuer d'inviter André Dussolier. En plus d'être un grand acteur, maintenant, il peut nous donner de bonnes adresses. Bon, ben voilà. C'est brut, c'est cash, mais c'est honnête. On progresse. Dans le couple aussi, il faut avouer. Ça peut apporter que du positif. Bon, Jean-Claude, faut que je te parle.
Oui.
Voilà, j'ai couché avec André Dussolier. Quoi? Mais rassure-moi, c'est fini avec Dussolier. Pas du tout, ça continue, c'est de mieux en mieux. Mais enfin, je te suffis plus, c'est ça? Ben non. Faire l'amour avec toi, c'est comme regarder des chiffres et des lettres. Et crois-moi, c'est pas souvent que le compte est bon. Ah, parce qu'avec André Dussolier, c'est fantastique peut-être. C'est mieux que fantastique. Dussolier, il a pas l'air comme ça, mais c'est un tigre le mec. Il a le vice dans la peau, c'est une bête, rien ne l'arrête. Il est pervers comme un animateur télé. Avec Dédé à chaque fois, c'est une bingo chiquito. Une vraie tornade. Tu veux me quitter, c'est ça? Non. Je veux que tu te remettes en question. Je veux que tu t'appliques. Je ne veux plus que tu me considères comme ta cuisinière, ta femme de ménage ou ton infirmière, mais comme une femme à part entière. Une femme qui a des envies dégueulasses, aussi bien de domination que de soumission. Une femme qui veut hurler, qui veut déchirer les draps, qui veut recevoir la fessée pendant qu'on lui récite de la poésie. Je veux vivre, quoi. On t'embrasse, tu nous manques tellement. Ok, chérie, je vais changer. Je vais devenir une bête, tu vas voir. Promis, promis. Un vrai Dussolier. Alors voilà. La faute a été avouée. Ça fait mal, l'espace d'un instant, mais après, il va où le couple? Eh ben, il va dans la bonne direction. Oui. La direction d'un épanouissement à deux qui laissera de côté la tentation pour s'épanouir dans la luxure bienfaitrice, pardon, d'une relation matrimoniale heureuse, sans avoir à faire appel à tous ces Dussolier qui tapis dans l'ombre du malheur érotique attendant slip que le mari flanche. Voilà, Nagui. La vérité crue, c'est ma vision pour un bonheur et une efficacité retrouvée. Alors? Bien sûr.
Tu peux tomber.
Je peux me tromper, mais honnêtement, ça m'étonnerait.
Bravo.
Daniel Morin.
Jamais.
La musique est un sujet, est un personnage dans le film, parce que lorsque le couple part pour cette ville de Nice, très belle ville de Nice où se trouve Thierry Lhermitte, l'amant d'il y a 40 ans, la première chose qu'ils écoutent dans la voiture...
J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie.
Et c'est drôle parce que à ne rien dire, à simplement écouter la musique avec les regards, les silences dans la voiture, on sent la tension et la nervosité. Donc évidemment, il change de radio. Pour écouter.
Je reviens te chercher.
C'est pas mieux.
Qu'est-ce que je l'aime cette chanson.
Écoute.
Tu vois, j'ai pas trop changé.
Et sur le fait de ne pas trop changer, d'ailleurs, il y a des répliques extrêmement violentes entre Thierry Lhermitte, qui reconnaît tout de suite Sabine Azéma 40 ans après. Mais vous, alors?
Pas du tout.
Ah, vous avez pris un coup de vieux.
Je t'aurais jamais reconnu, lui dit. C'est François, c'est toi.
Ouais, c'est un stratège, Thierry, hein, franchement. Ça.
Thierry qui donne de sa personne.
Ah oui.
Oui, pas mal.
Oui,
hein.
Oui, beaucoup. On voit nu dans une piscine.
Mais comment convaincre Thierry Lhermitte de se mettre totalement nu.
Il paraît qu'il a plus vraiment sa tête.
Alors c'est lui qui demande. Hein.
Il a fallu retenir.
Alors, je plaisante. C'est vrai que quand je lui ai proposé le scénario, je lui ai dit, je te préviens, il y a une scène où il faut être nu. Est-ce que tu veux une doublure? Il m'a dit non, moi, pas de problème. Je trouve ça drôle dans le film.
Ah, totalement, ça sert l'histoire en plus.
Et donc je le fais. Il y a pas de souci.
Et puis il est en pleine forme.
Avec des contractions. Ouais, il est très beau.
Quel bel
franchement,
homme.
Il est magnifique.
Laura.
Une petite question. Vrai ou faux tatouage, Thierry Lhermitte?
Vrai tatouage.
Vrai tatouage. c'est un dauphin sur la fesse. C'est un dauphin.
Incroyable.
Et la
Pourquoi c'est un dauphin ? D'où tu sais ça ?
C'est un dauphin, je l'ai vu.
Ah oui, d'accord.
C'est des arrêts sur image.
Non. Au cinéma, c'est dur. Mais c'est non, c'est un dauphin. Enfin, j'ai cru voir un dauphin. Je me dis, comme il est marin et comme il aime.
Non, non, mais alors c'est un tatouage qu'il a lui vraiment. La maquilleuse vient me voir. Il a un tatouage sur la fesse. Qu'est-ce que je fais ?
La maquilleuse a refusé de tatouer les fesses de Thierry Lhermitte. Il faut préciser.
Je crois qu'elle n'a pas été contre. Elle est très professionnelle. Et je lui dis non, non, laisse. Je trouve que ça allait bien avec le personnage.
Bah oui,
parce que là, Thierry Lhermitte dans le film, c'est un peu Popeye qui aurait pris 40 ans.
Qui est professeur de karaté.
Ouais, voilà. C'est comme dans Les Bronzés, donc il y a vraiment des clins d'œil. Et qui est devenu un vieux garçon qui a jamais réussi à se caser, un peu fils à papa, qui vit dans une très belle maison et qui, quand il voit revenir Annie, Sabine Azéma, qu'il a aimé, il se dit...
Le karaté, c'est vie sentimentale.
Si je ne me remettais pas à la draguer sous les yeux d'André, parce qu'il n'a aucune vergogne.
Tu as fait la blague ? Karaté, karaté, sa vie sentimentale,
non,
c'était
pas
une
du
blague.
Tout.
Non, parce que non, okay, non je voulais pas la souligner.
Ça fait plaisir, mais moi, écoute, ça va. Je sentais que tu voulais.
Ça fait si mal aujourd'hui.
Ah ben non, t'as fait fesse.
Bien fesse triste.
Bien fesse triste. T'as fait un très joli lapsus.
Un coup, si tu veux.
Non, ça va aller. André, non, si on fait toute l'émission avec.
En ce moment, Nagui est très fatigué.
André, au contraire. André Dussolier. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage ? Jouer les cocus,
c'est très payant.
Non, mais jouer la victime.
Ils sont excessifs. Voilà. Ouais, évidemment, la comédie, ça me manquait un petit peu quand même. Depuis quelques temps, j'étais plutôt dans le drame ou les choses un peu. Oui, à distance, comme ça, ironique. Mais là, la comédie, et ça part fort, hein, ça part vite, évidemment. Donc, il y a de quoi. Comment dire, jouer des situations vraiment avec plaisir, quoi, délectation. Donc c'est ça qui me plaisait. Après, c'est vrai que le personnage évolue quand même un petit peu. Quand même.
Oui, carrément.
Il est un peu ému par tout ce qui se passe. Il revoit les enfants différemment.
Il y a des scènes bouleversantes à la fin du film. Ouais. Et il y a des twists, comme on dit.
Final est merveilleux.
Ah, il est très beau. Il est très très beau.
Ça en dit long.
Parce qu'il finit par
vive les greniers.
Il a rangé le grenier quand même.
Ouais. Vive les greniers.
Ouais. Mais pour en revenir à votre personnage et au plaisir de jouer les dialogues aussi.
Oui.
Il y a des formules. Tu files un mauvais coton à Annie qui revient régulièrement. C'est un gimmick presque.
Oui, quoi. On sent que Yvan qui écrit aussi beaucoup pour le théâtre, qu'a est-il faire dans cette galère, etc. Il doit connaître ça par cœur, les gimmicks, etc. Les répliques qui reviennent comme ça une ou deux ou trois fois. En effet, ça fait rire au bout d'un moment. Ça appartient à un personnage. Et donc, ça fait partie de la comédie aussi.
Mais ça va bien au militaire aussi que vous incarnez. Parce que il a des formules toutes faites.
Mais affirmatif et négatif, c'est très militaire.
Exactement, très militaire. Il y a le fait qu'un militaire ne craque jamais, un militaire ne renonce jamais. Enfin, il est rempli de principes. Et d'ailleurs, sa fille lui dit tu arrêtes d'être à cheval. Et il dit je préfère être à cheval qu'à genoux. Là
c'est
aussi.
Beau.
Non, mais c'est
vrai qu'il est comme ça. Mais je tiens à dire qu'il est aussi plein d'amour, cet homme. Hein. Il adore sa femme. Hein. 50 ans après s'être marié avec elle, il l'aime toujours.
Il a ses secrets, lui aussi.
Et il aime aussi ses enfants.
Alors, tout le monde est persuadé que vous avez trompé. Les enfants disent tu n'as pas été fidèle.
Non, non, d'accord.
Ah, le regard que vous avez lancé à Leïla. Ah, tu leur as dit.
J'ai pas dit ça.
Tu leur as dit.
Je leur ai dit, bah oui, pardon André, mais vous pouvez pas garder ça pour moi.
Je trouve ça suspect. Je trouve ça suspect, cette inquiétude.
Nous parlons du personnage.
En regardant.
D'accord. Il est tellement impliqué dans ce personnage.
T'as plus de second degré.
La différence.
Prenez un peu de recul, André Dussolier. Donc, dans le film, vos enfants sont persuadés que vous avez trompé. Ce qui est le cliché, un peu traditionnel de la société patriarcale, c'est le mari qui fait cocu la femme et la femme qui reste fidèle tout le long. Là, c'est totalement l'inverse. C'est elle qui a été volage, lui qui a été extrêmement rigoureux. Il y a même un moment où votre fille, Joséphine Demeau, jouée par Joséphine Demeau, vous dit je suis sûr que tu as craqué pour une ex. Ben non, justement, au moment où ça n'allait plus dans le couple, j'ai failli craquer.
Voilà.
Et elle vous dit ah, ben c'est ça. Aujourd'hui, tu regrettes en fait de ne pas avoir craqué.
Exactement.
Chacun aurait eu.
C'est pour ça que t'es si en colère.
Voilà.
Oui. Parce que parfois, on est en colère de ce que les autres se sont autorisés, alors que nous, on se l'est interdit.
Oui.
En tout cas, c'est bizarre quand même que cette histoire du passé fait que ça renaît un petit peu dans le présent et qu'en effet, je retourne voir pour voir sous quel trait elle a
maintenant. Pour se venger, il cherche son amour d'enfant, son amour de jeunesse.
Oui, Sabine retourne aussi voir. Thierry Lhermitte, je tiens à dire d'ailleurs que j'ai pas vu le dauphin, moi. J'étais pas là ces jours-là, mais il a vraiment un dauphin.
Fesse gauche.
Si t'étais là, mais il était caché pour
accentuer mes coups de pelle.
Franchement, des cachotteries comme ça, Thierry. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui, en plus, a plein d'activités annexes.
Ah, bah oui.
Entre la voile, entre maintenant, c'est l'équitation. Il fait plein de choses. Bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse.
Mais de quoi on parle là?
On parle du vrai Thierry Lhermitte. C'est-à-dire qu'André n'a plus aucune frontière entre les personnages et les acteurs. C'est très gênant.
J'ai loupé une énorme partie du film. Ce truc d'équitation.
C'est du professionnalisme. C'est
qui faisait karaté sur cheval.
En même temps, vous économisez des chambres sur le tournage. Tout le monde dort ensemble, j'ai l'impression, sur le tournage de ce film. Donc, revenons à vous. Le personnage, je parle André Dussolier.
J'en peux plus.
Et ce rapport. Non, mais c'est-à-dire que non seulement il découvre qui est sa femme, comment elle s'est comportée, mais aussi qui sont ses enfants. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a vécu d'une manière extrêmement militaire, rigoureuse, en les mettant chacun dans des cases. Finalement, sans trop les écouter.
C'est rassurant, évidemment, de mettre les gens comme ça, d'avoir une image bien précise, et puis petit à petit, les découvrir. Ça demande un effort quand même. Ça demande vraiment une ouverture d'esprit qu'il n'a peut-être pas forcément au départ.
Au début, oui, c'est vrai.
Parce que, bon, il est là, obéissant aux ordres.
C'est un homme de devoir aussi.
Il chante anniversaire sur l'air de la Marseillaise. Oui. C'est quand même grave.
Oui, mais il a composé des paroles spécialement pour sa femme. Donc il y a aussi une sorte d'attention. Donc il y a ce mélange de rigidité et d'amour.
Moi, j'aime beaucoup le dialogue dans le dialogue, c'est-à-dire quand Sébastien Chassagne et Joséphine Demos se dire bienvenue chez les fachos.
C'est pas ce meeting d'extrême droite.
Réunion d'extrême droite, c'est ça. Et puis la dérision, le jeu de Sébastien Chassagne est un vrai bonheur en tout cas dans le personnage et de la manière dont vous l'avez écrit.
Génial. On l'avait vu dans Yannick, enfin on le voit de plus en plus. Et Joséphine, c'était dans Nos Jours Heureux qu'elle s'est révélée, elle était fantastique.
Et vous dites beaucoup de bien d'Eva Rami aussi en interview.
Je suis fan d'Eva Rami, j'avais vu tous ses spectacles et je suis ravi qu'elle soit dans le film.
Elle fait des seuls en scène, c'est ça?
Ouais, elle fait des seuls en scène, elle joue au Théâtre Le Pic dans Va aimer, qui est génial, qui se joue en ce moment. Et je vous le recommande. Et c'est une actrice merveilleuse qui, je pense, va faire parler d'elle de plus en plus.
En tout cas, ce film, j'espère pour vous, va faire parler de lui. Il sort ce mercredi au cinéma avec cette belle affiche d'acteur. C'est 50 ans de mariage où un général à la retraite, fou amoureux de sa femme et qui a été extrêmement fidèle. Là, je ne gâche rien dans le film, mais il n'arrête pas de crier, de hurler sa fidélité pendant ses 50 ans parce que c'est un homme de principe. Voilà. Elle est beaucoup plus légère, dirons-nous.
Disons qu'elle a commis une petite sortie de route.
Il n'était pas souvent là, comme dit Leïla, qui prépare déjà les arguments pour défendre.
Et elle dit.
Elle les a déjà utilisés.
C'est une ménagère, soudain, un homme m'a regardé comme une femme, et voilà, j'ai fait une énorme bêtise. Elle essaie de s'excuser.
Elle le dit d'ailleurs, excuse-moi, pardon.
J'ai fait une énorme bêtise, voilà, c'était il y a 40 ans, il y a prescription.
Mais c'est très drôle la manière dont elle veut nier au début, quand il découvre les lettres, en disant c'est qui ça? Je sais pas, parce qu'il y en a plein qui s'appellent Annie en France, mais pas ici, cette adresse.
Oui, c'est ça, tu es marqué chère Annie, et Annie, c'est à toi. Ben, je suis pas la seule Annie sur Terre.
La musique du film également, parce que vous avez demandé à ce qu'il y ait une musique particulière pour ce film. À qui avez-vous demandé la musique, Yvan?
Eh ben, j'ai travaillé avec Laurent Aknin, qui est mon compositeur habituel, qui avait fait la musique de L'étudiante et Monsieur Henri, de La Dégustation, et même dès mon premier film, Irène, c'est lui qui avait fait le thème. Et c'est un merveilleux compositeur, et il apporte vraiment une poésie, une douceur, et quelque chose de plus au film. Ce que j'aime bien, c'est que la musique raconte une histoire encore supplémentaire en marge du film.
Ah, c'est un personnage, ouais.
Ouais.
Carrément. Je voulais saluer aussi Simon. La pièce de théâtre, qui est une véritable pièce de théâtre de marionnettiste.
Oui, absolument. Il y a un spectacle de marionnettes dans le film.
C'est ça.
Parce que Sébastien Chassagne est marionnettiste. Et il y a une merveilleuse compagnie. Le spectacle s'appelle L'éloge des araignées. C'est génial. C'est génial. Et c'est une scène, je pense, vraiment très marquante dans le film.
Ah oui, elle est bouleversante à plus d'un titre. D'abord, c'est un joli spectacle. Et en plus, elle apporte à l'histoire un coup d'émotion, un coup de fouet. C'est essentiellement drôle, il y a des moments où les yeux peuvent piquer aussi un tout petit peu, mais c'est une véritable comédie signée Yvan Calbérac avec André Dussolier qui est notre invité. Tout à l'heure, nous allons recevoir Juliette Allais, ça va intéresser Daniel Morin, sur le mensonge, et faut-il avouer...
J'en connais un rayon, monsieur, je peux vous dire.
Elle est psychopraticienne et pas psychopathe comme toi.
C'est la différence.
C'est ça. Voici venir Laura devant.
Vous êtes sympa, la bando. Se necesita una poca de gracia.
Je suis d'humeur chantante. J'ai décidé de ne faire que du feel good désormais. Je laisse la déprime au podcast. Aujourd'hui, nous recevons Clémentine, femme cis, qui a subi des violences gynécologiques alors qu'elle venait pour un monde incarné. Salut Clémentine. Ouais, j'adore ce genre de podcast. Place à la bonne humeur. Allez. C'est pourquoi je vais vous parler ce matin de cette avocate qui a fait une crise d'épilepsie en perdant les os en pleine audience. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. L'avocate était enceinte, c'est une vraie histoire. L'avocate était enceinte de 8 mois et demi. Donc à ce stade, ça s'appelle plus enceinte, hein, mais système son Dolby Surround pour Stade de France. Je veux dire, moi je vois, je suis à peine à 8, je déborde. Baudruche style, tu me fais une pichenette, j'éclate. Quand je marche, enfin plutôt quand je roule à contresens des couleurs du métro, écartez-vous, sinon c'est le strike. Alors je vais vous dire, 8 mois et demi pour aller plaider, on se dit...
Courage.
Objection. Objection. Ce que l'avocate a fait, elle a demandé un report et non pas un rapport, car ça, elle en avait a priori eu un 8 mois avant. Excellent. Report refusé parce que, selon les magistrats, son confrère aurait pu plaider à sa place. Oh, ce magistrat's planning. J'ai envie de dire, c'est magistral. Franchement, lorsque ton travail, c'est d'assurer la défense de quelqu'un que tu suis depuis un an, c'est évident que tu délègues easy le fruit de cette année de labeur décisif pour le prévenu. Eh ben, madame ne voulait pas. Les femmes, en plus de nous emmerder avec cette espèce de mode là, de porter des, tu sais comment ça, non pas des sacs à main, plus cher et moins pratique, des bébés. Voilà. Eh ben, elles voudraient en plus faire bien leur travail. Non mais qu'est-ce qu'elles sont capricieuses. Résultat, SAMU, pompiers, grosse frayeur et gros danger. Ce qui méritait une objection, votre honneur, est devenu un gros doigt d'honneur à la profession et plus généralement aux femmes enceintes. Alors moi, j'ai été prise sur un tournage de série. Ah. Vous m'avez vue récemment à la télé ?
Non.
Non, bah non, parce que quand la prod a appris que j'étais en club, je me suis fait dégager sans sommation. Et oui, vous comprenez, une femme enceinte sur un tournage, c'est galère. Mais oui, mais spoiler alerte, la vie, c'est galère. Alors on a essayé de me consoler en me disant « Oh, mais c'est pas grave, tu attends un heureux événement. » Certes, mais c'est pas pour ça que je dois en perdre d'autres, tu vois.
C'est ça.
Bah voilà, moi j'ai envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et le lait maternel, tu vois. Et d'ailleurs, c'est à moi de décider ce qui est grave ou non, parce que déjà, j'adore bosser. Et en plus, bah, faut bien payer les poussettes, les doudou, les cododos. C'est-à-dire, tout ce qui se rapporte au bébé, c'est que des noms niais où il faut doubler les syllabes, tu sais. Il a fait caca dans la coucouche, un rototo et au dodo. Bah ouais, tout ça, ça coûte un bras et un utérus, c'est dire si c'est chez cher. Et dans les professions libérales, le congé mat, c'est environ 50 euros par jour. Rappelons que 50 euros, c'est le prix d'un ticket de métro pendant les JO. On va donc pas aller bien loin avec ça. Bah si, au moins jusqu'au terminus. Excellent. Donc, dans certains métiers, on pousse les femmes à bosser jusqu'au terme. Moi, chez France Inter, on m'a vraiment mis à l'aise. Mais tu t'arrêtes quand tu veux, Laura. Vraiment. Vraiment quand tu veux. Vraiment. Mais vraiment. Même mais... aujourd'hui, si tu veux. Mais... Allez, arrête-toi.
Mais vite.
Et du coup, je ne sais pas ce qui est le mieux. Tu vois? Non, j'ai aucune envie de m'arrêter, mais ce matin, j'ai eu l'impression d'avoir couru le marathon alors que j'avais juste fait mes lacets. Je pense donc qu'il est temps pour moi de vous chanter « C'est ma dernière chronique et le micro sur l'écran est tombé ». Mais déjà, ça veut rien dire. Et en plus, la chanson m'a perdue quand elle a dit « Bye bye les chocolats glacés ». Non, non, certainement pas bye bye. Bref, merci tout le monde. Merci toute la bande. Et la prochaine fois qu'on se verra, bah, je serai maman.
Oh yes. C'était Lolo.
C'était la grosse Lolo. Eh oui.
C'était Lolo, c'était Laura. C'est vrai la notion de doubler toutes les syllabes quand on parle d'enfant.
Ouais. Toujours. Bah, et, bébé, papa.
Et de doubler les factures quand il s'agit d'acheter des produits pour enfants.
Exactement.
Ça, c'est un univers que tu vas découvrir.
Cher. Tellement plus cher. Tu vas t'éclater. La bande originale du film, vous l'avez entendu, le générique de ce film N'avoue jamais, qui sortira ce mercredi au cinéma, nouveau film d'Yvan Calbera, qui pour une fois parmi vos derniers films n'est pas l'adaptation d'une pièce de théâtre ou d'un roman, c'est un...
Non, c'est un sujet, un scénario complètement original.
Ça fait 3-4 films, c'est ça, ou c'était chaque fois une adaptation?
Oui, c'est vrai, j'avais adapté La Dégustation, et puis j'avais aussi...
Avec un autre couple de cinéma, entre guillemets, Isabelle Carré et Bernard Campan.
Ouais, génial.
Qui vont tellement bien ensemble.
L'étudiante et Monsieur Henri, c'était aussi une adaptation. Ouais. Venise n'est pas en Italie, c'était un roman à la base que j'avais écrit. Et là, on est parti juste d'un petit fait divers et j'ai imaginé toute cette histoire.
Quelle histoire!
Pour une fois, vous avez bossé, quoi.
Voilà.
Et la musique dans le film.
Pour le jour.
Ah. Je la connaissais pas, celle-là.
Bien, celle-là.
Génial. Incroyable. Et un mari pour la vie.
Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit.
C'est l'hymne de Dany.
Je reviens te chercher.
Pardo Beko.
Tu vois, j'ai pas trop changé.
Ça pour le film N'avoue jamais.
N'avoue jamais, 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 jamais.
Et on va demander à notre invité tout à l'heure si c'est le cas. Surtout ne rien avouer et garder les secrets, les secrets de famille.
N'avoue jamais que tu l'as trompé et que t'es habillé en Zara. En gros, c'est ça.
Et dans le film, n'avoue jamais les secrets de famille. C'est pas uniquement d'ailleurs les secrets entre le couple Sabine Azéma et André Soulier, mais chacun a ses secrets justement qui sont révélés au fur et à mesure du film. La musique dans vos vies, on va commencer en 69-70. André Soulier, vous écoutiez Jacques Brel.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours.
Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette chanson de Brel?
Il sert de couple encore, hein. Oui. Voilà. Et c'est tellement astucieux, je sais pas.
La malice des paroles, vous plaît?
Oui, les paroles, la musique, tout est en accord, quoi. Et tout est harmonieux chez Brel à chaque fois, avec le thème, la musique. Elle est, oui. Et puis là, je sais pas, c'est tout simple. Ça raconte beaucoup de choses aussi sur le couple, sur la vie et sur les rapports entre les deux. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson.
Il y a la chanson des vieux amants aussi qui est formidable, oui, sur la tromperie et sur le fait qu'ils soient toujours ensemble. Il se passait quoi dans la vie d'André du Soleil et Laïla en 69?
Eh bien, André, vous obtenez une licence en linguistique, une maîtrise en lettres modernes, mais vous ne pensez qu'au théâtre et vos parents doivent estimer à ce moment-là que c'est un truc de guignol, en fait.
Oui, pas loin.
Ça revient au film.
Pour t'amuser. Oui, ouais, c'est ça. En gros. Alors j'étais en province, en plus, il n'y avait pas vraiment de comédien professionnel. Hein. Mmh. C'était lointain, tout ça.
Vous faites le service militaire? Rapidement, on va dire.
Oui, une jambe sur deux quand même. C'était vraiment, j'ai tout fait pour ne pas le faire.
Dans quelle province, vous étiez?
J'étais à Annecy. D'accord. Et après, j'étais rentré au conservatoire. Et donc, il fallait vraiment que je reste avec ma génération, Lali Vidray, Nathalie Baye, tout le monde. Et j'avais pas du tout envie de les quitter. Et donc, j'ai tout fait. Quand, demi-tour à droite, demi-tour à gauche, je me trompais systématiquement. Ils m'ont envoyé, en effet, voir un psychiatre qui m'a dit, écoutez, je sais pas si vous êtes fou ou pas fou, mais vous devriez vous faire soigner. Donc, ça, c'est déjà gagné. J'ai été réformé, donc P4. J'ai pu continuer. P4, voilà, exactement. On était très nombreux à l'époque, donc il n'était pas très regardant.
On est deux déjà autour de cette table. Ah, trois, ok.
Et en 47, ils leur ont demandé carrément s'ils voulaient faire le service militaire, parce que je crois qu'il n'y avait pas assez de casernes pour les héberger tous. Donc voilà, c'était une bonne période.
Non, mais personne n'a fait son service militaire en France. En
Daniel,
fait,
tu l'as fait?
32 jours de service effectif.
Mais pourquoi? P4 aussi?
Non, au départ, j'étais P3, et puis j'y étais.
Et puis t'as marqué un point.
Ils m'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique militaire.
Ah oui?
Ouais.
Toi aussi, mais disons, c'est
de grâce.
Il n'y en a pas un.
Non, à Dijon.
C'est Dijon. Dijon.
Ouais. Un joli tour de table. Ouais. Voilà, un joli tour de table.
C'est là où on finit.
On comprend mieux pourquoi on est là.
Voilà.
Quant à vous, Yvan Calberac.
C'est l'histoire.
Eh ouais, c'est la naissance. Bonne vanne. Parce qu'il est né en 70, c'est bon.
Eh oui. Et vous avez plutôt un cursus en sciences. Vous obtenez-vous une maîtrise en mathématiques, un DESS de droit et de gestion en communication audiovisuelle.
Oui, j'ai vraiment beaucoup donné à la fac. Ouais. C'est 8 ans à la fac.
Pour faire quoi avec ça, dans l'idée à ce moment-là déjà?
À cette époque, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et puis, ne venant pas d'une famille d'artistes, pour moi, c'était pas imaginable de vivre un jour de ça, même si j'écrivais déjà beaucoup. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était en licence de cinéma. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais, pour moi, c'était licence de vacances. Je me suis inscrit après et effectivement, j'ai quitté les maths et j'ai commencé à faire du cinéma.
Est-ce que ça vous a servi, la rigueur entre guillemets des mathématiques, pour, je dis n'importe quoi, la gestion, d'un plateau, d'un planning, de l'organisation, une rigueur?
Ça m'a servi dans la capacité de travail, parce que c'est vrai qu'en maths, on bosse de 8h du matin à 20h, ouais, quand on révise des partiels.
Hippocagne aussi, hein, on
bosse. Oui, oui.
Dans toutes les matières.
Ouais. Oui, en tout cas en maths, de ce que j'ai vécu, c'est vrai, en lettres aussi, mais c'est vrai que nous...
Mais être cartésien, est-ce que ça aide à être, quand on est réalisateur?
Oui, et en même temps, les maths, à un certain niveau, c'est de l'imaginaire, parce qu'on travaille sur des ensembles abstraits. Mm. Donc, c'est une capacité d'abstraction. Donc, oui, ça développe aussi l'imaginaire.
C'est plus artistique qu'on le croit, en fait, les mathématiques. Ouais.
Et c'est très créatif.
Et ouais, c'est très musical. Les maths, les mesures, les solfèges, ouais, exactement.
Mm. Et souvent, ceux qui sont bons en maths sont excellents en philo aussi.
Oui,
très
en souvent. 93-94, André Dussolier, vous écoutiez.
Quand on a que l'amour. À souffrir en partage, au jour du grand voyage, que notre grand amour.
Alors vous avez pu rester sur Brel, sauf que...
Ben
là,
oui,
vous avez
c'est Brel, en effet. Mais ça, d'ailleurs, cette chanson, elle date de 1956. On aurait pu la faire chanter par Brel, mais Céline Dion l'a reprise en concert, en live, etc. Et c'était assez magnifique. À l'Olympia, voilà.
C'est votre amour du, c'est votre amour du football qui vous a fait choisir cette chanson ?
Pourquoi le football ?
Cantona, avec... que l'amour. Enfin, c'est pas. Il se passe. Ok, d'accord. Il se passait quoi en
93 normalement.
En 93, pour vous, André, c'est la Saint-Valentin de l'acteur. C'est comme ça que vous appelez le fait de recevoir un César.
Ah, d'accord. J'avais déjà... C'est tellement loin, 93. Mais c'est en même temps, c'est un beau souvenir. C'est Claude Sautet,
ouais,
un cœur en hiver. Et quand on n'a que l'amour, en effet, c'était Daniel Auteuil qui avait eu le César, d'ailleurs, lui aussi, je crois bien. Oui, enfin, j'ai peur, c'est loin tout ça. Hein. Le César, ça dure un jour. Et puis après, on oublie, on passe au suivant. Mais, mais non, mais c'était...
Comme les maîtresses.
Oui, ça. Non, non, c'était bel, beau film, hein, très personnel, très sauté, etc. D'une autre période, d'ailleurs, que les précédents, Vincent, François, pas les autres, etc. Non, c'était un beau souvenir, c'est un grand souvenir. J'aurais bien voulu voir sauter plusieurs fois. Un jour, sauter, ouais. La première fois que je le rencontre, il me dit... Dommage que vous n'ayez pas le nez cassé. Et c'est toujours comme ça. Les metteurs en scène ont quelquefois des envies d'acteurs, mais avec, un peu différents quand même. Il faut qu'ils ne soient pas tout à fait dans le moule qu'ils ont présenté.
André.
On a encore un autre projet derrière.
C'est ce que j'allais dire. Vous n'imaginiez pas un autre acteur pour jouer le rôle de François dans le film quand vous
le... Il y a des militaires quand même, il y en a déjà.
Non, mais c'est vrai qu'André, il est incroyable. En plus, comme le personnage, comme vous l'avez dit, un truc un peu rigide, il fallait qu'il soit sympathique. Et André, il est charmant. Il est immédiatement sympathique. Donc même si son personnage est un peu rigide, il a un côté on l'adore. Donc
et
oui,
encore, puis, oui, un potentiel.
Et puis en comédie, c'est un Stradivarius. C'est un bonheur de travailler avec lui et Sabine et Thierry. J'ai vraiment été gâté sur ce film avec des acteurs d'un tel niveau.
Yvan Calberac, vous écoutiez-vous dans ces années 93-94 Alain Bachou. Alors Joséphine, c'est pas Joséphine de Meaux ?
Non.
C'est une autre Joséphine ?
Non, non, c'est parce que ça correspond au moment où j'ai osé vivre de ma passion et osé quitter les maths et me lancer dans le cinéma et le théâtre. Donc, et puis j'adore Bachung, je trouve que c'est vraiment un immense artiste.
Quand on décide de faire ce pas en avant, ça peut être vertigineux, c'est bien accueilli par l'entourage, les parents, les proches.
Les proches, oui, parce que ils nous soutiennent. Et puis, j'étais jeune et ils étaient aussi jeunes que moi, donc aussi inconscients que moi. Mais les parents, ils se disent que je prends un gros risque. Voilà, mais ils m'ont quand même un peu soutenu, je dois dire.
Et vous devenez comédien, en fait. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'écriture et de l'imagination, donc la réalisation, tout ça. Mais là, c'est le jeu aussi.
J'étais un peu comédien, mais c'est vrai que dans mon école théâtre, ils m'ont proposé à la fin de l'année d'être assistant à la mise en scène. Et j'ai pris ça pour un message. Je me suis dit d'accord, c'est peut-être plutôt derrière que ma place est.
On a besoin de quelqu'un dans les centres. Ouais, c'est bien.
Non, ils m'ont proposé aussi de réadapter le texte qu'ils étaient en train de faire parce qu'ils avaient déjà lu des trucs que je faisais. Ouais. Donc je me suis dit, voilà, peut-être que ma place elle est plus là. Et c'était cool parce que j'ai pas de frustration de pas jouer.
Ouais. De pas être sous les feux de la rampe ou de pas être à l'image.
Non, franchement, j'adore ce que je fais et je suis bien là.
Je voulais juste saluer Joséphine Dray qui est une humoriste, qui est une actrice, qui fait justement des seuls en scène aussi, comme Eva Rami, et on faisait la blague avec Joséphine Demeaux qui joue dans votre film, et Joséphine qui est la Joséphine de cette chanson. C'est-à-dire, elle était la fille du batteur. D'Alain Bachung, et elle jouait.
Je connais Joséphine Dray, je ne savais pas que c'était.
Voilà, c'est elle aussi Joséphine, trop la case, avoir une chanson qui porte son nom. Bah, oui, il faut revenir. André Dussolier, en 2001, vous écoutiez.
On a tous le droit.
C'est un petit clin d'œil à Diane Folly qui chante cette chanson parce qu'en fait je joue dans un spectacle qui s'appelle Sans Dessus Dessous et elle a accepté, parce qu'elle a un grand don d'imitation, de faire Sarah Bernard dans le spectacle. Donc voilà, c'était une manière de lui rendre hommage de loin comme ça à travers cette chanson qui date...
Spectacle dont on avait parlé à ce micro aussi, c'est un seul en scène aussi.
Magnifique. Et 2001, on vous retrouve André en couple avec Sabine Azéma dans Tanguy. Eh oui, Tanguy, ce phénomène, ça déclenche un nombre d'entrées assez fou. Je crois que plus de 4 millions d'entrées à l'époque. 4 millions, c'est énorme.
Ouais.
Et c'est tout d'un coup, là, c'est un couple complice. Complice dans la tentative d'évacuation de l'enfant.
J'ai peur la formule.
C'était assez insolent à l'époque. Hein. Enfant roi, comme ça, on n'ose pas y toucher. Ouais. Je me demandais comment ce scénario allait être accepté. Et puis finalement, en fait, c'est partie d'une histoire vraie, là aussi. C'est une histoire qui s'est déroulée en Italie. Vraiment, la mère ne pouvait pas supporter cet enfant qui ne faisait rien, qui était toujours sur le canapé en train de regarder la télévision. Elle a changé les serrures. Il a fait un procès à sa mère. Il l'a gagné.
Mais donc, non
voilà. Si, il a gagné. Donc du coup, voilà, ça a inspiré Étienne Châtillies qui a fait Tanguy. Ça a été bien vécu.
La réalité ira toujours plus loin que la fiction. Hein,
ah
c'est
bah,
ça.
Toujours.
Yvan Calberac, vous écoutiez dans ces années 2002. You could be my unintended choice to live my life. La joie inattendue de Muse, qui correspond à quoi dans votre mémoire musicale?
En fait, c'est la bande originale d'Irène, mon premier film que je fais cette année-là. Et à l'époque, Muse n'est pas encore le groupe que c'est aujourd'hui.
Donc accessible en droit de bande originale.
Ils acceptent de nous céder les droits, alors qu'on n'avait pas un flèche pour ce film.
C'est génial.
Et on réussit à avoir Muse dans la bande originale pour un de mes moments préférés avec Cécile de France, qui est en train de conduire. Et soudainement, elle rêve d'enfant. Et c'est un moment où soudainement... elle voit des berceaux traverser la rue de partout qui sortent et dans une rêverie.
Cécile de France qui n'était pas très connue non plus à l'époque.
Non.
Donc là,
non.
C'est un double carton quand même.
Ouais, ça s'appelle avoir le nez creux, oui.
Ouais.
D'accord, Laura Domange, quand on est enceinte, on voit des milliers de femmes enceintes dans la rue et partout.
Oui. Et puis on trouve tout le monde très mince. Je vous ai jamais trouvé aussi svelte.
Oh non, mon chat, c'est pas vrai. Eh ben, je crois qu'on a tout dit, hein. Cécile de France, Bruno Pouzoulou, Patrick Chenet, premier long métrage
qui est nommé au César.
Nommé au César, absolument. Ouais, c'est ça génial. L'information.
Heureusement que c'est la fin de saison. Hein. En 2011-2012, André Dussolier, vous écoutiez.
Un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur.
Alors, ça aussi, c'est vraiment un truc à triple bande. C'est parce qu'avoir un bon copain, c'est une chanson qu'on chante avec Jean-Pierre Bacri dans On connaît la chanson. C'est une chanson, en fait, c'est une chanson militaire allemande. Et c'est à propos de ce film Diplomatie que j'ai tourné avec Yannis Arestrup, mis en scène par Volker Schöndorff, et qui raconte l'intention de Hitler de vouloir détruire totalement Paris. Et qui a confié à Scholtitz de détruire Paris. Les bombes étaient placées partout. Voilà. Et donc, finalement.
Tout était prêt pour que ça saute.
Ouais,
juste avant que les nazis se retirent en 44.
Oui, en 44. Et Nording, un consul suédois vivant en France, essaye de convaincre Scholtitz de ne pas faire sauter Paris, de ne pas passer à cet acte à un moment donné où les Allemands sont en train de perdre la guerre. Donc, voilà. Mais sinon, on est passé à très, très peu de voir quelques monuments magnifiques détruits.
Diplomatie, Cyril Gély avec Nils Arestrup. Cette pièce vous coûte, en fait, un film avec Alain René.
Exact. Oui. Il y avait Alain René qui me disait, il a monté un film qui s'appelait, je sais plus, enfin bon, bref, il y avait, et puis il me dit, je lui dis, mais je peux pas, Alain, je joue au théâtre le soir avec Nils Arestrup. C'était une pièce très intense. Il me dit, mais c'est pas grave, j'ai prévu une ambulance qui sera là sur le tournage. Genre, si jamais il vous arrive quelque chose, comme aux États-Unis, quoi. On me dit, non, quand même, l'ambulance, tout ça m'inspire pas.
Vous inquiétez pas, il y a un corbillard juste à côté. Il y aura toujours de quoi vous accompagner.
C'était prévu.
Et ça marque votre retour au théâtre aussi. Ça faisait un moment que vous n'aimiez
pas
le théâtre.
Oui, c'est vrai. Et Diplomatie était vraiment une pièce très formidable.
Ouais.
Yvan Calberac, vous écoutiez, vous, l'excellent...
Il suffirait de presser de rien, peut-être 10 années de moi pour que je te dise je t'aime.
Encore une histoire de couple et de différence d'âge.
Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain t'offrir un autre café crème.
Et c'est l'étudiant des Monsieur Henri.
C'est la pièce jouée à Paris pendant plus d'un an, ensuite en tournée dans toute la France, récompensé à de nombreuses reprises, qui a même été adapté à l'étranger, au théâtre. Et c'est un film ensuite, c'est la belle histoire.
Ouais, ça a été une mise en scène de José Paul à la base, au Théâtre de Paris. Un succès fantastique, on joue un an à guichet fermé, 150 dates de tournée, et puis effectivement...
C'est dommage de fermer le guichet quand c'est... bah, pardon.
Allez,
on est sur un bon score. Hein.
D'où vient l'idée de l'étudiant et Monsieur Henri? C'est quoi le
Ça
départ
vient d'un reportage que j'avais vu en Espagne, où on voyait cohabiter des jeunes avec des personnes âgées. Des personnes âgées qui ont une chambre de libre dans leur appartement, qui se mettaient à la louer à des étudiants, parce que c'est difficile de se loger quand on est étudiant. Et parfois, et les personnes âgées souffrent parfois de solitude. Donc,
j'avais... Ils vont faire ça pour les JO, hein. Vous devriez faire un
ouais,
bon film.
Je vais faire le 2, alors.
Le sportif et Monsieur Henri.
Le sportif et Monsieur Henri, oui, pourquoi pas. Et voilà, et à partir de ça, j'ai imaginé toute une histoire. Mais j'aimais l'idée de faire cohabiter deux personnes qui n'ont pas de lien de parenté, mais qui ont deux générations d'écart. Voilà.
Revenons à N'avoue jamais, donc ce film qui sort ce mercredi, signé Yvan Calberac avec André Dussolier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte dans les rôles principaux. Juliette Allais nous a rejoint. Bonjour, madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychopraticienne, pardon, et auteur de Comment guérir de sa famille. C'est une maladie, la famille?
Ah, parfois ça peut l'être, oui.
Et les secrets de famille sont... Enfin, dire, qui dit famille dit forcément secret de famille,
non,
ça
non,
va de pair.
Alors, je pense qu'il y a des petits secrets dans toutes les familles, bien évidemment. Mais quand on parle du secret de famille, c'est quelque chose qui a un impact destructeur sur les descendants. Et je pense qu'on n'a pas tous des secrets comme
donc
ça.
Donc c'est forcément négatif, un secret de famille. C'est forcément
ouais,
quelque
quand
chose
on,
qui va
quand
plomber.
Quand on dit secret de famille, ouais. C'est quelque chose qui va avoir un impact sur les descendants, mais un impact qui va être problématique,
d'accord.
Qui va être structurant, qui va être compliqué à vivre. Et je pense qu'on a... Alors, on n'a pas tout ça dans nos familles, mais si on s'amuse à remonter dans les générations précédentes, on risque de trouver quand même quelque chose.
La famille, donc, avec ses secrets, il faut peut-être redéfinir secret, mensonge,
ouais.
Diplomatie, parce qu'il y a différents degrés. Il y a ceux qui disent
oui,
non,
bien sûr.
J'ai pas menti, j'ai oublié de te dire la vérité, ouais. Ou j'ai pas menti, je voulais te protéger.
Ouais,
enfin,
bien,
voilà.
Bien sûr. Mais le mensonge, c'est plus quelque chose qui va être anecdotique, qui si c'est tu, n'aura aucun impact sur
okay.
personne, enfin, sauf sur mari et femme, et ça va engendrer l'achat d'une pelle pour aller trucider Thierry Lhermitte. Mais bon, ça, c'est pas grave. En
qui n'a pas eu envie de trucider Thierry Lhermitte une fois dans sa vie, ça va.
Non, moi,
je l'ai croisé ce matin, j'avais vraiment envie.
Ah, ouais, mais moi, il me manquait la pelle.
Ah ben voilà.
Les femmes, beaucoup moins.
C'est bizarre.
C'est clair. Mais le secret, c'est vraiment quelque chose, si on ne le dit pas, qui va être vraiment problématique pour les gens qui vont venir après. Et mais, c'est ça la grande différence.
Oui, mais il y a ceux qui se font piéger par leurs secrets. C'est-à-dire qu'ils ont tellement menti et tellement caché qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière.
Ah, c'est pas possible. Regardez Jean-Claude Roman.
Ouais.
Alors là, c'est le secret ultime, quoi. Il est obligé de trucider tout le monde parce que ben il y a plus rien, il sait plus quoi faire d'autre. Et ça, enfin, évidemment, on n'en arrive pas à ça.
Bah, ça peut être une solution.
Dans chaque situation.
Xavier Dupont de Ligonnès, il avait peut-être énormément de secrets, on ne sait pas.
Peut-être. Mais enfin bon, sa sœur a dit que tout ça a été magouillé.
Oui, c'est vrai.
On ne sait plus.
On est rassuré.
On
croit.
Sœur, ouais.
Et qui dit secret de famille dit forcément un jour. Vérité, explosion, révélation, c'est-à-dire que ça finit par péter.
Ça a tendance à chercher à se révéler. Mm. Ça, vous savez, c'est sous-jacent, ça grignote, et à un moment, ça voudrait apparaître à la surface. Donc, il y a forcément quelque chose qui va faire que ça va se révéler au grand jour. Après, là, dans cette comédie-là, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Annie laisse traîner tous ses courriers dans son grenier.
Pourquoi garder des lettres d'amour d'il y a 40 ans?
Et pourquoi
elle les a peut-être oubliées, tout simplement.
Ouais, ah, peut-être.
Bon, ils traînent pas, ils sont cachés. C'est lui qui fait du rangement et qui les trouve.
Ouais, mais ils sont pas. Alors, pour un vrai secret, c'est pas assez caché. C'est pas caché.
Alors, vous avez des conseils à donner à Daniel Morin.
Voilà.
Alors, Daniel, écoute bien,
s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour.
Il faut vraiment, pour que ça fasse vraiment secret.
Détruire les preuves.
Il faut détruire les preuves. Il faut que ce soit sérieux, quoi.
Quand on a reçu des lettres d'amour si belles.
Ah oui.
Est-ce qu'on a envie de les détruire? Je
crois peut-être pas les détruire, mais peut-être les mettre dans un endroit où le mari ne risque pas de les trouver, parce que sinon c'est... Après, elle peut se dire qu'au fond, ça n'a pas d'importance.
Ils sont cachés dans des faux livres, dans le fond du grenier, quand même.
Mais ne
le dis pas, c'est un trésor.
Non, mais elle change la date, c'est tout.
Est-ce qu'il faut faire le tri avant son départ, pour pas non plus laisser aux enfants et aux petits-enfants le soin de ranger vos affaires et d'un coup, là, de découvrir des...
Non, mais je pense que ce qu'il faut, c'est surtout à assumer. Le secret, c'est quelque chose qu'on n'assume pas, qu'on n'arrive pas à assumer parce que ça vient ternir notre image ou parce que c'est trop difficile à dire ou à vivre. Donc, je pense qu'il faut surtout assumer ce qu'on fait dans la vie et de cette manière-là, laisser à nos descendants une image de cohérence et d'intelligence de vie, en fait.
Être en paix avec soi-même, finalement. Donc, dire la vérité.
Oui, voilà, c'est ça. Être assez au clair avec soi-même, ça, c'est pas mal comme exemple.
Donc, dire la vérité.
Oui, plutôt, oui. Pas sur tout, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de tout se dire.
Ah, ça y est, vous commencez. Alors, on finissait sur une bonne note, et d'un coup, voilà.
Parce qu'il y a des, en
fait, il y a des vérités qui blessent.
Mais comment on fait le tri ?
Alors, ce qui fait le tri, c'est que ce qui va être problématique, c'est tout ce qui touche à la transgression de la loi, aux abus, à la sexualité, à la mort, à des choses qui sont vraiment importantes à connaître. La filiation, si on ne sait pas qui est son père, c'est quand même embêtant. Mais pour, si on trompe sa femme ou son mari, ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus anecdotique en termes de secret de famille.
Bah, tu vois. Merci Juliette Allais. Je rappelle votre livre « Comment guérir de sa famille » aux éditions Erol et « Se libérer et guérir des blessures familiales » aux éditions J'ai lu. Tanguy Pasturo, qui a beaucoup souffert du film d'Étienne Châtier.
Ça va mieux maintenant.
On l'a déjà dit. De quoi vas-tu nous parler?
De psychothérapie, très bon psycho. Je vais vous parler de Lemmy Kilmister, leader de Motorhead parti en 2015 et dont les cendres viennent d'être tatouées sur quelqu'un. Alors pas sur Bruno Retailleau, pas sur André Dussolier, pas sur Olaf Scholz, quelqu'un d'autre en fait.
Ok, on en parle après les infos de midi avec André Dussolier et Yvan Calvérac, nos invités. Avec Léa Kadogoudadi, avec Laura Domange, Tanguy Pasturo, Daniel Morin.
Coucou Laura.
Et nos invités, Yvan Calvérac et André Dussolier. Mercredi au cinéma.
Jamais.
Vous avez hésité pour le titre ou pas, Yvan?
Non, c'est vrai que quand on a trouvé ce titre, on s'est dit que c'était parfait parce que.
C'est-à-dire que
oui, c'était avec les producteurs. On a réfléchi avec les producteurs et c'est même Jérôme Corcos pour lui rendre grâce qui a trouvé ce titre. Et puis j'avais envie de mettre la chanson dans le film. Et là, c'est vrai qu'à chaque avant-première, on balance la musique et on entre et ça met une ambiance de fou.
Et pourtant, cette musique n'arrive qu'à la fin.
Oui, dans le film, elle arrive tardivement, mais au bon moment,
mais
j'ai envie de vous dire.
Mais oui, parce que c'est un personnage, comme on l'a dit, dans ce film. Le point de départ, un couple amoureux, structuré, une réunion de famille, un anniversaire, un 14 juillet. En plus, pour un militaire, avoir sa femme née un 14 juillet, quoi de mieux pour chanter la Marseillaise?
C'était la femme de sa vie, ça.
Ah bah oui,
il n'a pas hésité.
Elle était au garde à vous. Avec Sabine Azéma. André Dussolier, et non, puis non. Les enfants, Joséphine Demos, Sébastien Chassagne, Gaël Giraudot, et puis l'ami Michel Boujna, l'amoureuse Eva Rami, et puis l'amant Thierry Lhermitte, l'amant d'Ilia, 40 ans, qui ressurgit dans un trésor caché, dans simplement « je vais ranger le grenier ». Ça se demandait d'ailleurs s'il faut les ranger, les greniers et les caves, de peur de trouver des secrets, des cadavres.
C'est ce que disent les premiers spectateurs du film. Moi, j'irai plus jamais au grenier.
Bon, au contraire, je vais vite y aller, des fois qu'il y a des choses.
Ouais, non, faut rien, tout éliminer.
Faut rien laisser traîner. Mais en tout cas, ce militaire à la retraite, qui a toujours été très droit dans ses bottes, pour reprendre une expression militaire, va devoir, là aussi, autre expression militaire, sortir l'artillerie lourde pour, pour régler le dossier.
Oui,
pour récupérer sa femme, surtout.
C'est tellement d'ailleurs que oui, c'est ça, qu'on lui parle de ça, de l'artillerie lourde, dans une histoire sentimentale, et qui finit par dire, mais c'est quoi l'artillerie lourde? Il est complètement démuni, quoi, le pauvre.
Oui, mais tu dis récupérer sa femme. Or, au début, c'est lui qui veut prendre du recul. Et à force de la pousser dans ses retranchements, c'est elle qui craque et qui s'en va. Donc il perd finalement tout ce qu'il voulait avoir.
Il remet en actualité un petit peu quelque chose du passé, alors il se débat avec, et puis finalement il donne des idées, il sème des petits cailloux comme ça dans les êtres qui sont concernés, sa femme en particulier, et puis aussi le copain, etc., qui dit tiens, finalement elle n'a pas beaucoup changé.
C'est un ressort de comédie, ça, Yvan Calvérac, de finalement aggraver la situation en croyant trouver une solution.
C'est ça, la comédie, c'est faire vivre à son personnage principal des cauchemars successifs, de pire en pire. Et ce que j'adore, c'est les histoires ironiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui, en voulant obtenir quelque chose, va obtenir exactement l'inverse.
Oui. Pire même.
Là, il veut réparation, et finalement, il va remettre sa femme dans les bras de son amant d'il y a 40 ans, alors qu'il était là pour lui casser la gueule. Mais finalement, l'amant, il est hyper sympa, il l'accueille, il lui paye un verre.
Mais Thierry Lhermitte dit, même la phrase, c'est « donnons-lui une bonne raison d'être fâché, d'être énervé ».
Oui, c'est ça, à la fin, il dit
quel
ça.
Salaud. Ouais, c'est quel salaud.
C'est vrai.
C'est bien joué.
Et d'ailleurs,
il a pas tort, en même temps.
Oui, c'est ça.
C'est très bien joué.
Et donc, lui, il jouait, il l'a séduite comme ça 40 ans avant, jouant de la guitare sur la plage. Michel Bougenat lui-même a été cocu parce qu'il y avait un pianiste qui jouait Imagine.
Et dans donc, un hôtel.
Et voilà, en et donc ça donne cette formidable phrase, salopard de musicos.
C'est des salopards de musicos, oui, c'est ça.
Tellement facile pour
oui, parce
séduire
que
les filles.
Ils nous piquent nos femmes et effectivement, ils sont ensemble là, à boire des verres, ils sont tous les deux désespérés. Et...
Interdire la musique. En Afghanistan, ils l'ont fait, il n'y a plus de problème. tu vois.
Salaud.
Tanguy président.
Pardon. Ah, oui, ou dictateur.
Il vit en Afghanistan même.
Tanguy le 15 à Kaboul.
N'avoue jamais sera au cinéma à voir en famille aussi. Parce qu'il y a
oui,
aussi
c'est beau... familial, on peut le voir à tout âge. On peut être jaloux à tout âge, je crois. On peut être amoureux à tout âge et c'est ça que montre le film.
Ce mercredi donc au cinéma. Tout de suite, voici Tanguy.
Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Bah oui, ça fait un an que vous n'êtes pas venu ici, André Dusselier. Bonjour les autres. Bien. Après cette semaine de vacances, je vois devant moi des visages apaisés, des faces bronzées. Daniel a bien profité de son séjour aux Hespérides de Cannes avec Bouvard et Jacques Vendroux. Hein, Laura Domange n'a toujours pas accouché. Oh là là là. On vit une époque où tout s'est accéléré, sauf ça. Ça fait des siècles qu'on est là, bloqué à 9 mois comme des cons. Ouais. Mais Elon Musk a pas pondu un concept pour optimiser le processus. C'est d'un désuet. Moi, je vais à la sortie des maternités. Vous savez, quand je vois un nouveau-né, je crie « Ringard !» Alors, petit point que tu passes-tu, je me suis assez peu reposé, la faute à ma tournée de rodage de spectacle, je passe ma vie sur les routes, comme les hippies en 69, mais épilé. Et voyez le danger avec les chroniques, c'est que parfois on en dit trop sur soi-même. En 7 jours, j'ai fait 5 villes, dont La Rochelle, où j'ai dédicacé mon roman à succès devant une foule en transe, dans la librairie où Leïla Kadour allait étant jeune. Alors, bien sûr, ce n'est plus la même équipe, ils sont tous morts parce que ça date, mais j'ai retrouvé derrière une vieille pile de Kundera, une mini-fiole de Pinot des Charentes, et je me suis dit, Leïla est passée ici, j'étais ému,
Ouais.
Alors moi, ils m'ont bien cerné, j'ai demandé un conseil lecture, on m'a renvoyé sur la soupe au schtroumpf. Ensuite, je suis allé à Ilion. Ilion, dans la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, c'est une ville connue pour la prolifération sur ses plages des algues vertes dues à l'agriculture intensive. Macron, juste après s'être baigné dans la Seine, va pouvoir s'en recouvrir le torse, hein, dans le cadre de son programme 2 mois pour ressembler à un lépreux. D'Ilion, je me rends à passer près de Rennes, avant le chaud, donc je me prépare. J'ai demandé dans la loge à avoir un jacuzzi au caramel au beurre salé. Donc je suis dedans, à l'aise-braise, avec deux renards et Gwenaëlle Leduc, la sosie vocale de Nolwenn Leroy. Quand l'un des membres de l'équipe de la salle frappe, je sors du caramel, mais il durcit, ce qui fait que je reste figé au milieu de la loge, tandis que les techniciens commencent à me lécher. Et là, c'est véridique. On m'annonce que dans la salle, il y a Alan Stivell, la légende de l'harpe celtique. En Bretagne, c'est un dieu. Pour nous, les Bretons, c'est l'équivalent de Beyoncé, quoi. Donc je vais lui dire bonjour en tremblant. Et il me dit que je l'ai cité dans plusieurs chroniques et c'est pour ça qu'il vient me voir. Donc Dita Von Teese, Scarlett Johansson, Gabriel Attal, je ferai une version jeune public, c'est pas grave. Et David Bowie, voilà, si les ayants droit sont ok, on mettra le cercueil sur le côté. Au moins, s'il se marre pas, je le prendrai pas pour moi. Mais vous rendez compte, je cite Alan Stivell, il vient. Et j'ai aussi pas mal cité Amel Bent et Aya Nakamura. Donc on n'est pas à l'abri à Paris bientôt d'avoir une version urbaine du spectacle. Je vais rentrer sur du Doja Cat. Premier rang, il y aura Jules, Niska, Damso, Medine, avec ses potes Louis Boyard et Mathilde Panot, grosse banderole Casa Forever, ils brûleront sur scène des logos de CNews. Bon, c'est sûr que ça va dérouter mon public de base. Hein. Bref, Alan Stivell est venu me voir, c'est dingue. Ça revient quand tu présentes devant des investisseurs ton business plan pour une supérette, d'avoir Bernard Arnault qui se lève et qui dit « je mets 4 milliards ». Ensuite, samedi, j'étais en Mayenne, public formidable parce qu'ils sont collés à la Bretagne. Donc c'est comme des frères, mais nés au mauvais endroit. Hein, je pense que les Sud-Coréens se disent la même chose des gens qui sont en Corée du Nord. Bref, je suis sur la route en ce moment, la vida loca rock'n'roll. À un moment, j'ai même roulé à 82 km/h sur national. En fait, j'ai la vie d'une star du rock, sans l'alcool, ni la drogue, ni les groupies, ni les énormes rentrées d'argent. Donc, bah, en fait, j'ai la vie d'un accordéoniste qui fait le tour des dancings. Mais dans ma tête, je suis une star du rock. Je me sens l'âme d'un Mick Jagger. Et quand j'ai à me lever d'un fauteuil, je me sens l'âge d'un Mick Jagger. Et hier, j'ai lu un article sur un collègue, Lemmy Kilmister, hein, le leader du groupe Motorhead, qui est mort en 2015 et qui est toujours mort aujourd'hui d'ailleurs. Ce mec est d'un ennui. Et bien, figurez-vous que ses cendres viennent d'être déposées dans un bar de Los Angeles qu'il fréquentait de son vivant. Et ils ont aussi lancé un nouveau whisky au nom du groupe. Il y en avait déjà un. Et là, je me dis, ça, c'est rock. Parce qu'à ma mort, à moi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un hommage devant le distributeur de café à France Inter, avec quelqu'un qui dira c'était une belle personne, il prenait toujours le café équitable, qui est 10 centimes plus cher. Mais moi, j'aurais pas de whisky à mon nom, mais une saloperie de verveine. Et dans les salons de thé, il y aura deux octogénaires, des Cathy, qui pleureront en disant au
heureusement, il nous reste Cyril Ferraud. J'ai pas mal cité Cyril Ferraud dans mes chroniques. Ouais, et bah, bientôt, je fais 100% logique. Voyez, ça marche. Hein, Office du tourisme de Saint-Barthes. Je tente. Voilà. Samantha Fox. Oui, c'est de la nostalgie. Je vous emmerde. Et encore plus fou, sachez que James Hetfield, chanteur de Metallica, s'est fait tatouer sur un doigt des cendres de Lemmy de Motorhead. Parce qu'il en avait envoyé à plusieurs potes. Il a généré plus de cendres que 4 SUV électriques qui ont brûlé dans un parking. Et c'est là que pour moi se situe la limite de la vie rock'n'roll. Moi, j'ai aucune envie, une fois mort, d'être dans quelqu'un. C'est déjà quelque chose qui, en général, me tente pas de mon vivant parce que je suis très exigeant. En plus, avoir ses cendres dans le doigt de quelqu'un, quand on sait ce que les gens font de leurs doigts. Vous avez déjà regardé les personnes qui attendent au feu rouge. Eh ben voilà, voilà, tout ça me dégoûte. Et je pense qu'il faut créer une notion de consentement post-mortem en disant voilà mes cendres, merci de te les mettre nulle part. Parce qu'on en est là, on en est là. Le monde du rockmaker, saleté de dégénérer. Je vais vous dire, je suis bien dans ma vie d'accordéoniste ringard. Et sinon, j'espère qu'Alan Stivell a aimé le spectacle. Ce monsieur en Bretagne, c'est notre Taylor Swift. Respect et merci la vie. La prochaine fois que je passe à Rennes, je veux Étienne Dao.
Merci. Puisque tu parles de Metallica, ils seront au Hellfest cette année, le 29 juin prochain. Sublime festival. Et Metallica, à voir absolument. Ils reviennent d'ailleurs. Ça a été, chaque fois, c'était carton. Je crois que c'était déjà au Hellfest il y a 2-3 ans. Et c'est à voir, je sais pas.
André, il y a quelque chose.
Tanguy.
Pas de Hellfest.
Avant d'être ensemble, il sera où?
À Tristan Bernard. Théâtre Tristan Bernard à Paris, à partir du 3 octobre.
Le film sortira ce mercredi avec André Dussolier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte, Joséphine Demeau, Sébastien Chassagne, Michel Bougenat, Gaël Giraudeau, Eva Rami, signé Yvan Calberac, ça s'appelle N'avoue jamais.
N'avoue jamais, 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 jamais. Jamais.
Oh non. On l'a dans la tête pour 3 semaines.
D'autres événements culturels, Leïla.
Oui, absolument. On cherche un film qui va ressortir le 24 juillet. Et sa date de sortie n'est pas anodine.
Ressortir.
Qui va ressortir, Amélie absolument. Poulain. Amélie Poulain, bravo.
Et pourquoi c'est la date de sortie n'est pas anodine?
Pour Yvan, parce JO. Que les JO, c'est deux jours. Après, et donc il compte sur les 15 millions de touristes qui vont débarquer en France. À l'époque, Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet avait réuni 9 millions de spectateurs en France, plus de 33 millions à l'étranger. Là, il y a 15 millions qui débarquent. Ils se disent qu'il y a peut-être un petit coup à faire et ça peut être intéressant. Et on va entendre votre voix parce que vous êtes le narrateur dans Amélie Poulain.
Oui, c'est vrai, mais quoi, ils ont besoin d'entendre en anglais ou en anglais? Moi, je pense qu'il est original avec des
sous-titres. Ils sortent les deux en VO. Sous-titrés,
oui.
En VO.
Oui.
Donc votre voix, André, va encore toucher encore plus.
C'est quand, d'ailleurs ?
Le 24 juillet.
Non, je serai là.
Ça fait 23 ans que
ce
film est
sorti. Ah oui, c'est déjà enregistré, vous embêtez pas à revenir. Hein.
Mais l'histoire, justement, de l'arrivée de votre présence, en fait, sur ce film, elle est complètement dingue. On la doit un peu à Becker, avec Un crime au paradis.
Exactement. Parce que Jean-Pierre Jeunet cherchait une voix qui ressemblait à celui qui faisait l'introduction des, comment ça s'appelait, des Incorruptibles. Avec, voilà. Et il trouvait pas, et puis, où la voix a vieilli. Donc, il passe tout d'un coup, c'était à Boulogne, et il voit Becker qui montait un film dans lequel j'étais, et il dit, tiens, on n'a pas essayé celui-là. Et donc, je me suis retrouvé dans un studio à faire des essais. Mais on a travaillé cette voix vraiment comme un personnage, quoi. Et donc, c'est ça, c'était vraiment amusant. C'est la première fois que ça m'arrivait, et on a passé 2 jours à faire cette voix off qui a valu d'ailleurs le film n'avait pas été prêt à Cannes parce que tout n'était pas ficelé.
C'est terminé, ouais. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain,
c'est culte.
Un de vos films justement comme ça, un peu porte-bonheur, étendard, ce serait lequel si c'était pas Le fabuleux destin d'Amélie Poulain?
On connaît la chanson peut-être parce qu'on entend beaucoup de chansons là maintenant, donc ça c'est au moins aussi une belle idée quoi. Et donc c'est vrai que tous les jeunes metteurs en scène à l'époque ont dit et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont enchaîné des films avec des chansons à l'intérieur, etc.
On en retrouve encore un petit peu. Et vous, Yvan, un film comme ça, un peu étendard, ça serait lequel?
Moi, j'adore les comédies et Le Dîner de cons, ça reste pour moi fantastique. En plus, il y a Thierry Lhermitte qui est aussi dans N'avoue jamais, donc c'est une manière de lui rendre hommage. Mais
ce serait une belle idée de ressortir au cinéma d'ailleurs ce film-là aussi.
C'était tellement drôle.
Ah, pour les Jeux Olympiques,
Pour les Jeux. Pour le prix du métro, tu veux dire. Autre question, on cherche une passion qui s'est emparée de la France et qui s'est accentuée fortement lors du confinement et du couvre-feu. Une passion dont on ne fait pas étalage.
La fabrication du pain.
Non, pas le pain.
Banana bread.
Il faut beaucoup de patience. Et comme nous le raconte, et comme nous le raconte Chloé Tridera dans Society, il y a même eu un grand rassemblement près d'Angers à la Pommeraye il y a quelques semaines.
donc une air poussée. L'activité française, c'est un marché de près de 59 millions d'euros en 2023. Non, c'est une activité manuelle, c'est un jeu.
C'est un jeu. Puzzle.
Absolument, le puzzle. Les 24 heures du puzzle en France ont eu lieu près d'Angers.
C'est pas une spécialité française.
À la Pommeraye. Non, j'ai pas dit que c'était une spécialité française. J'ai dit que la France, en fait, c'est devenu une passion française. C'est un marché, donc je vous le disais, de 59 millions d'euros. C'est 59 millions d'euros de puzzle. Avant le Covid, c'était 67% pour les puzzles enfants et 33% pour les adultes. Depuis, on est passé à 50-50. Passe. Il y a un champion du monde. Il y a un championnat du monde aussi du puzzle. Du speed puzzle.
Et alors
du speed puzzling d'ailleurs.
C'est qui le champion ?
C'est un espagnol. Mais c'est incroyable, 1000 pièces en moins d'une heure. Il peut faire 17 puzzles en 24 heures. Moi, ça m'a un peu impressionné.
Je vois.
Vous savez, on parle beaucoup de déconnexion. Le meilleur moyen, le meilleur digital détox, c'est de faire un puzzle.
Ah bah oui,
vraiment, on est vraiment dans son truc, on s'évade de tout.
Allez lire dans Society cet article où les gens...
Tu veux pas juste éteindre le téléphone ?
Non. Et faire quoi ?
Ouais.
Bah lire, t'es pas bah faire un puzzle.
Quelle idée de lire. Non, un puzzle.
Je te rappelle que tu es auteur de livres.
Oui, je sais.
Les gens parlent vraiment et témoignent dans cet article de Society. Allez voir ce dossier-là, sur l'impact que ça a sur leur vie et le fait qu'ensuite ils se regroupent, qu'ils font même des grosses compétitions.
Non, la catastrophe, c'est quand tu démarres un puzzle, que tu t'es un peu lâché sur le nombre de pièces et que tu le finis pas.
Et là, ça
bouffe toute la table de la salle à manger.
Ou que tu perds une pièce. Voilà, ça peut être le pire. Tout simplement. Est-ce que vous avez une passion comme ça, une passion cachée, tous les deux ?
Alors, le puzzle, j'en ai fait un pendant le Covid, j'avoue.
C'est vrai, toi aussi.
Et il représentait quoi ?
Il représentait une voiture.
Il y a différentes écoles.
Un paysage avec une voiture.
Waouh !
Et on avait trouvé ce qu'on avait pu parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans les magasins.
C'est vrai.
Mais une passion, moi, je suis passionné de sport. Donc j'adore le padel. Je fais du padel.
D'accord. Vous pratiquez souvent.
Ouais.
Et vous, André, sur le temps qui vous reste ?
Le sport aussi.
À regarder ou à pratiquer ?
Donc, il y a les Jeux Olympiques, mais je vais plutôt le pratiquer plutôt que de le regarder hein, quand même. Parce que, tout, la natation, le ski, enfin, tout ce que
vous voulez.
Je n'ai pas fait depuis un bout de temps, et le foot, que j'ai regardé hier soir.
Et oui, donc ça c'est votre passion à vous, toujours le foot.
Toujours.
Éternellement.
Vous irez aux Jeux Olympiques ? Vous voulez...
Je regarderai, parce que ça va être un peu infernal à Paris.
Non, ça va bien rouler, toutes les stations de métro vont être gratuites, ça va être de la folie.
Ça va être très bien.
Vous pouvez même y aller à la nage dans la Seine, vous pouvez faire plein de trucs, franchement.
Non, mais vous allez rester là pour les JO ?
Un peu.
Ah, voilà. Pour la cérémonie d'ouverture,
pas prévu.
Il y a pas il y a un rassemblement, une compétition que vous attendez avec impatience en particulier,
Ou auriez-vous aimé porter la flamme ?
Non, ils vont être nombreux hein, quand même.
Ouais. Moi, il faut que 50 mètres, il paraît.
Ah oui ?
Oui, c'est pour ça, c'est faisable, André.
Comment tu me parles ?
Il y a une scène comme ça.
Votre déambulateur.
Pour profiter du paysage, Yvon me disait va lentement.
Nouveau concept d'émission, Léla n'a plus de filtre.
Salut les vieux.
Je disais que si tout d'un coup on vous demande, si on demande de courir 10 km, c'est hyper engageant. Faut se préparer. 50 mètres, c'est dans
mes
cordes. C'est dans mes cordes à moi.
Répète le plus fort, il n'a pas entendu. Le 12 juin prochain.
Le 12 juin.
André.
Oui, le 12 juin.
Vous serez à l'affiche de Paradis Paris. C'est Marjane Satrapi avec Monica Bellucci et Roche Dizem. Quel est votre personnage dans ce film ?
Oh, alors là, oui. Je suis un animateur de télévision et en effet, je raconte des histoires à la manière de Pierre Bellemare.
Ah, ouais.
Donc, en effet, des histoires absolument dramatiques. Ouais. C'est un film de Marjane Satrapi et c'est très... c'est très coloré. Il y a plein de personnages et c'est une aventure et c'est le plaisir de vivre à Paris qu'elle raconte à travers des aventures très singulières. Voilà.
D'accord. Vous serez dans la série Zorro qui passera d'abord sur Paramount Plus et ensuite sur France Télévisions. Et vous êtes le papa de Don Diego de la Vega.
Exact. De Jean Dujardin. Que joue Jean Dujardin, etc. Et oui, absolument. Et là, en effet, c'est assez coloré là aussi et c'est plutôt dans la dérision, comme on imagine. S'il y a Jean Dujardin, c'est un peu comme ça. Et c'est le Zorro qui a été réinventé pour la circonstance et qui promet beaucoup.
Qu'est-ce qui vous, parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de scénars, qu'est-ce qui vous motive avant tout? Le plaisir du jeu, l'intérêt de l'histoire en elle-même, ou finalement le spectre des possibles en se disant j'ai jamais fait ça, ça m'amuserait de tenter ça.
C'est vrai, j'ai jamais fait ça, mais c'est d'abord le scénario parce qu'il y a tellement de films qui sortent chaque semaine ou tellement de choses qui sont produites que moi je me mets à la place du spectateur et je dirais tiens, est-ce que j'ai envie d'aller voir ça ? Après, il y a le personnage, bien sûr, le metteur en scène, mais ça va de pair, on a une chance au cinéma, dans le cinéma français, c'est que celui qui écrit réalise aussi, donc il y a une espèce de cohérence, c'est ce qui s'est passé avec Yvan quand on a fait nos lectures, etc. J'étais content de voir qu'on s'accordait pour aller dans la même direction. Non, c'est l'histoire d'abord, le personnage, et puis les, oui, et puis le metteur en scène.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans N'avoue jamais que vous n'aviez jamais fait avant et qui vous a fait accepter ce projet? Quel est le truc en plus qui vous a séduit?
Les coups de pelle. ou bien aussi le fusil mitrailleur, etc., qui ne fonctionne pas. On a l'impression de parler d'un film dramatique, etc., et de guerre. Mais enfin, c'est normal, c'est militaire.
Vous êtes très pudique. C'est-à-dire que les scènes d'amour, les baisers, les scènes un peu dénudées, c'est pas trop. Par exemple, Thierry Lhermitte, nu, vous n'avez pas regardé ses fesses. Nous, on a tous vu le tatouage, vous n'avez pas vu.
Si t'étais là, mais t'étais de face.
Si j'étais là, j'étais de face, oui. Mais enfin, bon, il était quand même pudiquement recouvert quand même, hein, ce jour-là.
C'est pervexant pour Thierry de ne pas s'en souvenir.
Oui, si, je me souviens très très bien.
Est-ce que, Yvan Calvera, vous avez glissé, ce qu'aiment bien faire certains réalisateurs dans le film, des choses très personnelles, un caméo ou une référence à un film
Oui, alors on parle toujours de soi, hein, même quand dans une comédie.
Qu'est-ce qui est à vous dans le film, alors?
Ben, moi, je suis passionné par les rapports père-enfant-parents, ce qu'on lègue à nos enfants, ce dont on hérite de nos parents, ouais, qui parfois nous encombrent. Et puis, par exemple, il y a une scène qui est un peu un petit clin d'œil à Irène, mon premier film. Je peux pas trop révéler parce que c'est vers la fin. Mais oui, il y a plein de clins d'œil. Puis c'est surtout développer un humour que j'aime, développer un ton, c'est ça qui me passionne le plus. Et ça, de film en film, et essayer de l'affirmer, de le revisiter, de le faire évoluer, c'est ça qui me passionne.
Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui m'a fait hurler de rire, c'est le chien. C'est Bazooka.
C'est vrai.
Le regard de Bazooka quand il va de jardin à cour, de cour à jardin, fonction
et puis
de...
Et la partie de tennis.
Tellement drôle.
Et puis aussi, même quand le lit se...
Oui.
Retrache.
Ah, alors ça. Voilà. Ça, c'est dans la bande-annonce, donc on peut le dire.
C'est un des gros gags du film, parce que j'ai voulu faire de l'humour visuel parfois. Il y a beaucoup d'humour de réplique, hein, il y a des punchlines, mais il y a aussi des moments très visuels qui peuvent permettre de faire rire à n'importe quel âge. J'avais envie que même les enfants puissent se marrer dans le film.
Et quand Drusulé soit plié en quatre dans un lit.
C'est vrai qu'il est englouti par ce lit, c'est assez jubilatoire.
Irrésistible. C'est aussi cinéma, c'est ce mercredi, ouais. N'avoue jamais. Des excuses à présenter, Daniel Morin?
Absolument, déjà désolé pour Yvan Calbera qui était venu se détendre à deux jours de la sortie de son film et qui ce matin a bien senti le soutien de Nagui, un soutien à base de « Ça va Yvan, pas trop de pression, tout se journe un jour Yvan, un jour et les jeux sont faits, en plus c'est les vacances Yvan, ça craint
oh. !» Non, au contraire.
Non, au contraire,
Je suppose qu'il a prévu. On s'est donné confiance ici, c'est ça qui compte. Désolé pour Madame Nagui, qui a bien compris que son mari défendait énormément la prescription et le droit à l'oubli en matière de tromperie, de cocufiage. Ah là là, quel salaud. Je te respecte tellement. Désolé enfin pour tous les fans d'équitation qui, en écoutant l'émission, se sont dit « Ah, un film avec Thierry Lhermitte qui fait du cheval, j'ai bien envie d'aller le voir. » Non, les amis, non. André Dussolier a bien mentionné Thierry Lhermitte et l'équitation, mais ça n'a rien à voir avec le film. En ce moment, il a plus de filtre, André, il mélange vie privée, promo, et il a parlé sans retenue de ses multiples adultères, de ses très nombreux et très mérités Césars. Apparemment, il n'a qu'un seul regret, il n'a pas bien vu le dauphin de Thierry Lhermitte.
Merci beaucoup et bravo surtout pour ce film. Merci Yvan Cabérac.
Et la flamme, c'est 200 mètres, c'est pas 50 mètres. J'ai une information à la source.
Ah ok, 200 mètres.
Ouais, bah, laissez tomber, c'est jouable encore.
Tu voulais pas t'en sortir en fait. On parlera sport avec un invité que vous admirez. Je prends pas beaucoup de risques en disant notre invité de demain, Bicente Lizarazu, qui sera notre invité demain pour parler de tous les sports. Et on évoquera évidemment le football avec notre champion du monde.
Le surf.
Il a essayé de faire bien, mais non. Dorothée, Barba, bonjour Dorothée.
Bonjour tout le monde.
Dans quelle région allons-nous aujourd'hui?
On est à Strasbourg aujourd'hui le carnet de campagne et je vous parle d'un truc que Daniel Morin va adorer. On célèbre les 80 ans du droit de vote des femmes en France et pour l'occasion, je vous parle d'un jeu de société consacré à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Prends-toi ça dans les dents.
Salut, bonne émission Dorothée. À demain, ciao.